Bonjour à tous, bonjour Pikachu.
Pika !
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Biologica Radiophonicus, la radio à l'écoute des pluricellulaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Australie, cette grosse île en bas du globe, perdue dans l'océan Pacifique, avec ses décors qui font rêver et ses dentistes qui maltraitent les poissons.
Bonjour, je m'appelle Dory.
Bonjour Dory.
En fait, je crois que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie.
Alors du coup, je ne vais pas vous parler de l'opéra de Sydney, mais plutôt des bébêtes qui vivent sur ces terres. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Mais d'abord, je dois vous prévenir que si cette faune respire le swag à 16 800 km, c'est à peu près la distance Lyon-Sydney à vol d'oiseau, c'est parce que la plupart des animaux australiens sont endémiques. Mais savez-vous ce que ça veut dire ce mot compliqué à 3 syllabes ?
Oui, vrai, je ne sais pas.
Eh bien, l'endémisme caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée. En gros, les animaux du terroir qu'on trouve pas ailleurs. Aïe. Je vous ai donc concocté un petit cocktail d'animaux poseille que tu croyais connaître et en fait non. On commence par le dingo. Alors bien sûr, je ne parle pas du dingo de Disney, mais plutôt du canidé vivant dans le désert australien. L'étymologie du mot renvoie à l'aborigène fingo, même si les populations indigènes possèdent plus de 10 mots pour le désigner. On pense que les dingos dérivent de chiens retournés à l'état sauvage il y a environ 5000 ans et qu'ils ont pris la place écologique d'autres carnivores comme le loup marsupial ou encore le diable de Tasmanie, dont je reparlerai plus tard. Comme le dingo s'attaque parfois aux troupeaux de moutons et présente souvent un caractère agressif, le gouvernement australien a choisi au 19e siècle d'ériger une clôture longue de plus de 5000 km qui empêcherait aux dingos d'envahir les états du sud. Hashtag Donald Trump. Dodd tente de les domestiquer mais cela reste difficile. En parlant de lutte entre les hommes et les animaux, je ne peux m'empêcher d'évoquer le cas des émeus. Vous savez, ces grands oiseaux qui ressemblent à des autruches mais que l'on ne retrouve qu'en Australie. Eh bien tremblez, car ce sont de redoutables adversaires. En effet, ces volatiles ont réussi à tenir tête au régiment royal de l'artillerie australienne au cours de ce que les médias ont appelé « la guerre des émeus » qui dura du 2 novembre au 10 novembre 1932. Le major Meredith, en charge de l'opération, déclara
« Ils peuvent faire face à des mitrailleuses avec l'invulnérabilité d'un tank ».
La guerre se termina par la victoire triomphante des émeus qui déplorèrent cependant plus de 2500 morts.
You win.
On reste avec les animaux endogènes et on enchaîne avec le diable de Tasmanie. Oui, comme Taz dans les Looney Tunes. Alors c'est un marsupial. Donc comme tous les marsupiaux, le petit est rapidement mis au monde et il finit son développement pendant plusieurs mois accroché aux mamelles de la mer. Vous verrez, il y a plein de marsupiaux en Australie. Comme son nom l'indique, le diable de Tasmanie vit en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Il vivait également en Australie même, mais a été éliminé notamment par le dingo. Ce qu'il faut savoir sur le diable de Tasmanie, c'est qu'il subit une grave épidémie de DFTD.
DFTD.
That's right, Devil Facial Tumor Disease.
Devil Facial Tumor Disease, ok.
C'est une maladie qui se transmettrait par morsure au visage et qui provoquerait le développement d'un cancer généralisé conduisant à une mort certaine. On suppose que les cellules cancéreuses, présentant un nombre anormal de chromosomes, seraient elles-mêmes responsables de la transmission. De fait, les cellules de la tumeur sont identiques entre elles, chez différents individus, mais leur ADN n'est pas le même que celui du diable de Tasmanie infecté. Les études datant de 2010 ont identifié que le cancer serait apparu chez un individu, unique, dans des cellules de Schwann. Pour info, les cellules de Schwann sont les cellules qui entourent les nerfs afin d'améliorer la vitesse du message nerveux. La compréhension du DFTD est essentielle, puisque la maladie ravagerait plus de 80% de la population selon certaines estimations. On va passer à un sujet beaucoup plus joyeux. Avec un de mes animaux fétiches, je veux bien sûr parler de l'ornithorynque.
Ornithorynque. Ornithorynque. Ornithorynque.
Bon, j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec son orthographe, mais peut-être qu'à force de l'écrire, ça va rentrer. On va commencer avec le plus évident, mais peut-être que certains ne le savaient pas. Alors oui, l'ornithorynque est un monotrème, tout comme les echinidés, qui sont également australiens. Et franchement, c'est le swag absolu d'être un monotrème. Et ouais, parce que ce sont des mammifères, mais en plus, ils pondent des œufs. Autre particularité, ils n'ont pas de dents à l'âge adulte et ils ont un éperon situé en bas des membres postérieurs. Et cet éperon est venimeux. Et ouais ma gueule, t'as bien entendu, l'ornithorynque est venimeux. Comme quoi on peut être à la fois adorable et badass, un peu comme Pikachu. Mais c'est pas tout. La température moyenne de l'ornithorynque est de 32 degrés, même si elle peut varier de 5 degrés, et il possède 5 paires de chromosomes sexuels. On peut se la péter avec nos XX et nos XY. Chez l'ornithorynque, on a XXXXXXXXX ou XYXYXYXYXY. J'espère que j'ai dit le bon nombre. Avouez que ça a la classe. Et je vais finir par le plus intéressant. L'ornithorynque possède des électrorécepteurs dans son bec. Du coup, ils peuvent repérer leur proie en détectant le champ électrique produit par leur contraction musculaire. Alors oui, je veux un ornithorynque dans le prochain épisode des Avengers. On passe tout de suite à un animal trop cute, le koala. Même si j'avoue que si je devais choisir entre une peluche koala et une peluche ornithorynque, le koala passerait rapidement à la trappe. Comme vous vous en doutiez, le koala est un marsupial endémique. On parle que de ça, limite. Le nom koala vient d'un ancien dialecte aborigène, mais ne signifie pas « ne bois pas » comme le veut la légende. J'ai cherché du coup ce que ça voulait dire, mais apparemment ça veut juste dire koala. Comme moi, le koala dort environ 20 heures par jour, ce qui est plus que le paresseux classique. Il fait partie des trois seuls animaux à pouvoir manger des feuilles d'eucalyptus, qui sont cependant toxiques et faibles en protéines. Il a été prouvé que les koalas sont capables de choisir les feuilles les moins toxiques pour se nourrir. Ces feuilles sont digérées par des enzymes puissantes, produites par leurs glandes cardiogastriques et par les bactéries de leur système digestif. Comme ils n'en retirent qu'une faible énergie, les koalas ont un métabolisme plutôt lent, à la manière des paresseux. Et vous serez ravis d'apprendre que les koalas défèquent environ 150 fois par jour, sous forme de boulettes sèches, évitant les pertes d'eau. Et voilà, j'en arrive au bout de mon émission sur l'Australie. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de tous les animaux australiens, donc n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté sur le kangourou, le wombat, le dugong, le crocodile marin, le poisson clown et toute la grande barrière de corail. En attendant, je vous fais des bisous sur la truffe et je vous dis à la prochaine. La ville.